Pourquoi aborder cette question de la méditation de pleine conscience? C'est quelque chose qui vient du bouddhisme initialement, mais qui, je sens, prend de plus en plus d'importance, qui consiste, on va le voir tout à l'heure avec la méthode, avec le souffle, à accéder à tout son monde intérieur. Et pourquoi aborder cette question-là? Parce que je trouve que dans l'Église, il y a un déficit, d'apprentissage de l'intériorité. Je m'explique. Bien souvent, quand une personne, par exemple, de tradition catholique, etc., avait peut-être délaissé la foi de son enfance, etc., et avec la vie professionnelle, parce que c'est aussi beaucoup ça, la vie professionnelle vous amène à vous questionner sur les fondamentaux, sur vos valeurs, sur ce que vous voulez vivre, revient aussi à l'Église. Bien, du coup, la seule chose qu'on a à proposer, c'est la messe. La messe, je suis pour, ça vous imaginez bien. Mais je me dis, il y a un déficit d'intériorité. On passe de l'extériorité, une personne qui s'étourdirait dans la fête, dans je sais pas quoi, etc., la période étudiante, grosso modo, à la transcendance. Oui, on passerait de l'extériorité à la transcendance sans descendre à l'intérieur. Et quand vous regardez, par exemple, la parabole du fils prodigue, vous connaissez tous la parabole du fils prodigue, etc., qui a demandé l'héritage à son père, etc., qui est parti dilapider l'héritage paternel dans une vie de débauche, etc. Et ensuite, à un moment donné, il est dit dans la parabole, revenant lui-même, faisant retour sur lui-même, il se dit j'avais tant de choses chez mon père, etc. Et ensuite j'irai vers mon père et je lui dirai, père, je ne mérite pas d'être traité comme un de tes serviteurs, voilà, comme ton fils, traite-moi comme un de tes serviteurs. Voilà, il y a une dimension, et ensuite il retourne vers le père. Donc il y a une dimension, il était dans l'extériorité, il était dans une sorte d'étourdissement. Et à un moment donné, il y a eu le fait de rentrer en soi-même. Et ensuite, il est allé vers son père, c'est-à-dire vers Dieu, à l'image de la parabole du fils prodigue, c'est l'image de Dieu. Il est allé vers son père, c'est-à-dire il est allé vers Dieu. Et je me dis, cette dimension de retour en soi-même, aujourd'hui, je trouve qu'elle fait défaut. On n'a pas de lieu. On n'a pas de méthode. Dieu sait si on a dans l'Église des traditions, je pense évidemment à la tradition carmélitaine, par exemple, de l'oraison, ou à la tradition ignatienne. Mais ça reste très confidentiel. Il y a quelques personnes qui pratiquent l'oraison, par exemple, je rappelle l'oraison mentale. Mais je vous interrogerai, je vais prendre un micro entre vous, c'est quoi l'oraison mentale, ben vous regarderiez le plafond, vous ne sauriez pas trop forcément définir ce que c'est. Et je vois pareil, ça c'est un point à l'intérieur de l'Église. En contrepartie, ce que je vois, c'est que il y a des personnes qui sont en recherche d'intériorité, en recherche de spiritualité, mais en dehors d'une dimension religieuse. Et, entre autres, la question de la pleine conscience, la méditation de pleine conscience, qui prend quand même une certaine importance, ne serait-ce que si on voit, par exemple, la quantité de téléchargements d'une application qui s'appelle Petit Bambou, 4 millions de téléchargements, c'est quand même pas rien, en 4 langues, et c'est une application d'origine française, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, notre société qui a voulu évacuer Dieu avec une forme de laïcité comme ça, de neutralité complète, qui fait qu'on se perd dans la consommation, mais non, un certain nombre de nos concitoyens, pas la majorité, mais un certain nombre de nos concitoyens ont un désir de vivre une intériorité. On a un désir de vivre une intériorité et non pas forcément un désir de religiosité. Et je trouve que c'est assez intéressant. Je me souviens, par exemple, j'ai célébré un mariage au mois de septembre, et c'est vrai qu'il y avait, comme disent les charismatiques, il y avait l'onction, il y avait une grâce qui était dans cette célébration que je trouvais très belle. Et un monsieur s'approche de moi pour me dire, c'était pas de la religion, c'était de la spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a la religion d'un côté, la spiritualité de l'autre. Donc c'est quand même problématique. Parce que, précisément, ce qu'on demande à la religion, c'est aussi de venir visiter notre vie intérieure, de nous approfondir intérieurement. Et donc, vous avez, se développe dans notre société, entre autres la méditation de pleine conscience, vous avez différemment le yoga, etc. Mais je vais dire des traditions parallèles, autres, disons, que le catholicisme, qui rencontrent un certain succès quand même. Hein, je vous donnerai des exemples tout à l'heure, peut-être plus dans le monde anglo-saxon que dans notre monde latin, et qui répond, pour certains, en tout cas, à un besoin d'intériorité face à un monde de consommation, face à un monde toujours rapide, face à un monde qui est dans une discontinuité, qui enchaîne les choses. Besoin de calme, besoin de continuité, besoin d'approfondissement. Qu'est-ce qui compte ? Et donc vous avez, par exemple, des retraites. Moi, j'ai vu des retraites, mais qui ne sont pas des retraites comme nous pouvons prêcher à l'abbaye d'Ourscan où je suis. Des retraites, par exemple, jeûne et méditation. Mais sans aucun aspect religieux. Hein, donc, vous avez des exercices, des groupes de méditation qui se forment, etc. etc. Bon, du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de réfléchir sur cette question-là, sur ce phénomène-là qui peut-être reste encore, j'allais dire, confidentiel, hein, la méditation de pleine conscience, qu'on appelle mindfulness aussi, vous l'entendrez plus sous l'aspect anglais, hein, parce que je trouve que c'est intéressant de dire, tiens, comment cette méthode, parce que c'est une méthode, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes l'employer dans une dimension, dans notre foi catholique ? Comment cette méthode peut-être aussi nous servir à nous-mêmes revisiter notre intériorité ? Quels sont les lieux où on a accès à notre intériorité ? Quels sont les lieux où on descend à l'intérieur de nous-mêmes et on revisite, j'allais dire, ce qui nous habite, tant au plan émotionnel qu'au plan spirituel, hein, et pour ne pas être les analphabètes de nous-mêmes. Hein, vous voyez, donc c'est un peu le thème de notre rencontre de ce soir, qui est un peu inhabituel par rapport à ceux que je traite d'habitude, mais je trouve intéressant. Et puis d'autant plus que donc je vais m'inspirer d'un livre du père Pascalide, que vous connaissez peut-être, père Pascalide, Méditer en pleine conscience, l'art de la réceptivité. Aux éditions de l'Emmanuel. C'est un prêtre de l'Emmanuel que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup la manière de réfléchir, etc. Il a écrit nombreux ouvrages, et c'est à partir de ce livre que je vais vous transmettre en fait un certain nombre de choses, mais aussi de voir que le Saint-Père, lors d'une audience générale, le 28 avril 2021, donc de cette année, a dit la chose suivante. La pratique de la méditation a reçu une grande attention ces dernières années. Ce ne sont pas que les chrétiens qui parlent d'elle, c'est un phénomène à considérer de manière positive. En effet, nous ne sommes pas faits pour courir sans cesse, nous avons une vie intérieure qui ne peut pas être toujours piétinée. Nous avons une vie intérieure qui ne peut pas être toujours piétinée. Si nos contemporains peut-être délaissent le côté religieux, une étude a été faite récemment, en tout cas en France, à peu près la moitié de nos concitoyens disent ne pas croire en Dieu. Ce n'est pas pour ça que certains ne prêtent pas attention à la dimension plus intérieure. Il y aurait comme une soif d'intériorité qui permet, au fond, d'être présent à soi-même. Parce que qu'est-ce que c'est justement la méditation de pleine conscience aussi, ou mindfulness, si vous préférez, vous rencontrez un peu ça, ce thème-là, c'est une attention au présent. C'est être présent au présent. Être présent à soi. Une présence à ce qui est. Dénué de tout jugement. Je suis, par exemple, dans cette église, je suis dans un accueil de tout ce qui m'entoure. C'est un acte d'attention, de conscience, une vigilance à ce qui existe autour de moi, sans jugement. Je ne dis pas c'est bien, c'est mal, non, sans jugement, je suis dans un accueil. Il s'agit d'une technique une attention à soi qui se trouve à ce qui se trouve autour de soi. Cette technique suppose un entraînement, des exercices, du temps. Et donc vous voyez des personnes qui donnent du temps pour s'entraîner à la méditation de pleine conscience de façon à être présent à la réalité qui les entoure. Un peu, déjà, distinguer les choses. Premièrement, la méditation de pleine conscience, ce n'est pas la méthode Vitose. Vous avez peut-être certains entendu parler de la méthode Vitose. La méthode Vitose qui consiste, avec le toucher, à être en contact avec la réalité qui nous entoure. La méthode, il y a les thérapies Vitose, etc., qui existent. La méthode Vitose, c'est autre chose. C'est une technique qui, au fond, va valoriser le toucher. Hein, Vitose était un médecin suisse. Ce n'est pas une méthode qui vient de la sécularisation de la foi protestante. Par exemple, c'était un protestant, le docteur Vitose. Alors que la méditation de pleine conscience vient de la laïcisation d'une spiritualité qu'est le bouddhisme. Et donc je trouve ça intéressant de dire que ce se distingue du Vitose, ce n'est pas un exercice non plus de relaxation. Hein, ce n'est pas répondre à un besoin de calme ou de silence pour se détendre. La relaxation traite l'effet, alors que la méditation de pleine conscience traite la source, la cause. Ce n'est pas non plus comme l'hypnose. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette méthode d'hypnose qui est utilisée dans certaines thérapies, parce que l'hypnose est un état de conscience modifié. Tandis que dans cette méditation de pleine conscience, je suis tout à fait maître de moi-même. Hein, ce n'est pas un état de conscience qui est modifié. En quoi elle consiste et un peu d'histoire pour comprendre un peu d'où vient cette méthode. Elle trouve son origine dans le bouddhisme, mais qui a été sécularisé. C'est-à-dire que vous avez deux personnes qui portent cette méditation de pleine conscience. Mathieu Ricard, c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose. Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste, qui est souvent sur les plateaux de télévision, qui est interviewé dans le monde des religions, etc., etc. Il a fait l'expérience de cette méditation dans le cadre d'un monastère bouddhiste. Et vous avez quelqu'un d'autre qui est un psychiatre qui s'appelle Christophe André. Christophe André, qui, lui, est médecin psychiatre, qui est le chantre, il a écrit beaucoup de livres sur la méditation de pleine conscience, hein, qui fait qu'aujourd'hui ça devient assez viral, en tout cas dans certains milieux. Ça, c'est encore une fois, c'est plutôt, c'est pas massif, hein, on ne va pas dire ça. Cette expérience, c'est intéressant comment il a fait cette expérience. Cette expérience, il l'a faite dans un monastère bénédictin, à la suite, alors qu'il n'était pas forcément religieux. Il n'était pas peut-être baptisé, je ne le connais pas ce monsieur personnellement, mais à la suite de la perte d'un de ses amis, et il a senti le besoin de se recentrer. Il a fait l'expérience dans ce monastère près de Toulouse, l'expérience d'une transformation intérieure, hein, dans le domaine. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a fait une expérience, mais... Et ce qui est intéressant, c'est dans sa manière de voir la méditation de pleine conscience, il l'a complètement séparée du bouddhisme. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à des croyances. J'en profite pour vous dire quelque chose. Soyez attentifs dans tout ce qui est dans le développement personnel. Tout ce qui est développement personnel, vous pouvez avoir des formations dans votre cadre professionnel ou vous-même, vous allez à la recherche soyez attentif à quelque chose, que dans ce que l'on vous transmet dans les différentes méthodes de développement personnel, qu'il n'y ait pas des croyances, des choses à croire. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans la méditation de pleine conscience, et ça vient du bouddhisme, on dit « je vais me dissoudre dans le grand tout ». Ben non, nous en tout cas, ce n'est pas notre foi, et ça c'est une croyance. Donc, là aussi, soyez dans les formations que vous recevez, ou dans le cadre professionnel ou personnel, soyez attentif à ce qu'on ne vous transmette pas, quelque part, une religion, des choses à croire. hein, mais et qu'on ne vous transmette que des méthodes, des techniques. Et je trouve que ce qui est intéressant avec la méditation de pleine conscience, c'est que c'est une technique. Ce n'est pas une croyance. Et c'est vrai que Christophe André, et peut-être pas pour rien qu'il est français, avec la laïcité à la française, a laïcisé complètement, a déconnecté cette méthode-là de méditation de son origine qui était le bouddhisme, et en fait en a fait quelque chose de tout à fait. L'a répandu, j'allais dire, autour de lui, à tel point que. Cette méditation de pleine conscience, au début, ça paraissait un peu New Age, etc., un peu loufoque, mais en 2012-2013, l'Université de médecine de Strasbourg crée un DU, un diplôme universitaire, médecine, méditation et neurosciences. Il s'agit d'une méditation en dehors de toute référence au bouddhisme, hein, sans être réfractaire au bouddhisme, il insiste sur le côté rationnel et neutre de ce type de technique. Vous avez aussi, alors j'essaie de trouver la page, mais où c'est intéressant de voir comment ça s'est. Voilà, page 29 du livre, de ce livre-là. Le projet d'introduire la méditation au Parlement de Westminster a germé il y a 2 ans. Ce projet a abouti grâce à l'aide de spécialistes éminents, le docteur Mark Williams, psychiatre, qui dirige le centre de pleine conscience à Oxford, et qui a créé des programmes de méditation dans les écoles via le projet Mindfulness in School. Et en janvier 2013, 95 députés et lords britanniques ont suivi des formations de 4 semaines à raison d'une séance le jeudi soir après la fin des débats parlementaires. Un jour, la méditation fera partie des programmes scolaires dans tous les pays. Il cite, je pense, c'est une citation de Christophe André, justement. Donc, je trouve ça intéressant de dire qu'il faut être attentif aux signaux faibles. Et comme ce n'est déconnecté d'une religion, cette méditation, cette technique que l'on va expérimenter maintenant, cette technique, elle s'applique à beaucoup de choses. Et elle fait rentrer dans une intériorité et elle fait. Voilà, on voit que ça s'applique, que ça se. D'une certaine manière, ça se transmet jusqu'au Parlement britannique, etc. En quoi consiste cette technique elle-même? Alors, d'abord, cette technique implique le corps et singulièrement le souffle. Donc, il faut être. Donc, on va expérimenter ensemble. Il faut que vous soyez donc en position assise, dos droit, sans être tendu, les yeux mi-clos ou clos, les mains sur les cuisses, et intérieurement, vous renoncez à tout jugement sur sa propre méditation, c'est une bonne méditation ou pas, sur les idées qui vous passent par la tête, sur vous êtes dans une attitude d'accueil. Et surtout, la clé de cette méditation, c'est le souffle. Donc, intérieurement, vous respirez, inspirez et expirez, et vous êtes centré sur votre souffle. L'expérience, j'allais dire, de la respiration, on peut compter jusqu'à 4 si on a des difficultés à se concentrer. Donc 4 pour inspirer, 4 pour expirer. Vous n'essayez pas de vous agripper à quelque chose d'agréable ou à. Vous accueillez simplement ce qui vient, l'instant présent. Il y a des pensées qui vous traversent, vous les laissez traverser. nous sommes dans une démarche chrétienne comme disciples de Jésus, ce souffle, nous reconnaissons que il vient de Dieu. Et donc, on peut dire en même temps qu'on souffle, qu'on inspire et qu'on expire, viens Seigneur Jésus, intérieurement. Vous ne cherchez pas une consolation, vous ne cherchez pas à retenir les choses, vous accueillez juste le présent. Vous accueillez votre corps tel qu'il est. Et dans une démarche de foi, vous le reconnaissez comme image et ressemblance de Dieu. Vous dites merci Seigneur pour ce corps que tu me donnes. Vous accueillez votre voisin, votre voisine, que vous connaissez ou pas, vous l'accueillez. Toujours en centrant sur le souffle. Et vous dites, viens le bénir, la bénir. Vous accueillez vous-même. Avec gratitude. Merci Seigneur pour la merveille que je suis. Réouvrir les yeux. Nous venons de faire une séance de méditation de pleine conscience. Donc c'est assez simple parce qu'en fait le souffle vous l'avez en permanence. Je vous le souhaite. Le souffle, vous l'avez, voilà, inspirer, expirer, c'est quelque chose qui est disponible à tout moment. Vous pouvez fermer les yeux, mais remarquez bien, nous avons fait cette séance de méditation dans une dimension chrétienne. Et c'est là où je trouve qu'il est intéressant, c'est que beaucoup de nos contemporains ne se disent pas disciples de Jésus, contrairement à nous, qui nous... En tout cas, la plupart d'entre vous, je suppose, vous êtes disciples du Jésus et ne vont pas mettre cette dimension chrétienne. Et c'est intéressant de voir aussi la différence entre la méditation et la prière. Parce que vous me dites, mais est-ce que ce n'est pas de la prière ? Oui, la technique elle-même est neutre. Mais vous pouvez utiliser cette technique comme une manière de prier. C'est quoi un peu la différence entre les deux? La méditation met en présence de soi-même, alors que la prière met en présence de Dieu. La méditation, c'est un acte des cinq sens, guidé par ma volonté. La prière, c'est un acte de foi, d'espérance, de charité. La méditation, elle est naturelle. La prière, elle est causée par la grâce. Vous voyez, donc, mon propos ce soir, c'est vous dire, vous avez à disposition une technique, et vous pourrez, on la fait rapidement là maintenant, mais que vous pouvez, j'allais dire, christianiser. Et c'est parce que, comme c'est quelque chose de neutre, cette méditation de pleine conscience, ça vous donne accès à votre intériorité. Mais ça vous donne accès à votre intériorité avec la foi. Parce que nous sommes ici dans une démarche chrétienne et catholique singulièrement. Ce qui veut dire que pour moi, en tout cas, cette méditation, cette technique centrée sur le souffle, avec vous pouvez, il y a plusieurs autres techniques, là on a vu une seule technique, mais par exemple, il y a ce qu'on appelle le body scan. Le body scan, c'est-à-dire, mais là qui prend, on ne va pas faire ça maintenant parce qu'il faut être allongé, donc ça va être un peu, peut-être un peu compliqué de s'allonger tous, voilà. Mais le body scan, c'est assez intéressant, c'est que vous, toujours centré sur le souffle, vous repassez chaque partie de votre corps et vous demandez que ce souffle arrive à chaque partie de votre corps. Mais dans une dimension chrétienne, vous reconnaissez que chaque partie de votre corps est image et ressemblance de Dieu. Et vous remerciez le Seigneur pour chaque partie de votre corps. Et ça, en commençant, j'allais dire, par les orteils de gauche, vous faites la totalité de votre... pour ça qu'on appelle body scan, la totalité de votre corps, c'est quelque chose qui prend trois quarts d'heure à peu près, la totalité de corps, vous arrivez jusque aux orteils droits. Donc ce qui est intéressant, c'est de c'est une autre méthode, donc où vous mentalisez chaque partie du corps et à la fois vous la mettez en contact avec votre Créateur. Une autre méditation, forme de méditation, c'est la méditation de bienveillance. Parce qu'on peut souvent reprocher à ce style d'exercice d'être auto-centré. Ce qui n'est pas faux, puisqu'on se centre sur son souffle. Et donc de ne rechercher qu'un bien-être, d'une certaine manière, hein, de ne rechercher qu'un bien-être, etc. En fait, je trouve que la méditation de bienveillance consiste à... Vous prenez le même exercice, vous mettez les mains sur les cuisses, vous fermez les yeux, etc. Et déjà, vous... Prenez une personne avec qui vous avez un bon rapport et vous pensez à cette personne. Vous demandez de venir bénir, dans une dimension chrétienne, cette personne. Prendre conscience de son besoin. S'ouvrir à l'amour de l'autre. Et puis, vous prenez ensuite des personnes avec qui les relations sont neutres. D'abord, une personne qui est plus avec qui je voulais plus d'affinité, mais ensuite une personne avec qui vous avez une connaissance. Et vous faites cet exercice. Et ensuite vous faites le même exercice avec une personne avec qui vous avez du mal à vivre. Et dans cette dimension on va le faire maintenant. Chacun d'entre vous, on va prendre 5 minutes. Prenez intérieurement une personne avec qui vous avez du mal à vivre. Alors, si c'est votre voisin, pas peine de lui dire, ou votre voisine. Mais voilà, vous avez, et donc, au travail, par exemple, typiquement au travail, vous avez des collègues, vous avez des hiérarchies, etc., où c'est compliqué, vous sentez que vous n'avez pas été élevé de la même manière, vous n'avez pas les mêmes valeurs, etc. Et donc, les mains sur les cuisses. Vous êtes droit dans votre contre le dos contre le siège de la chaise. Vous fermez les yeux. La respiration. Et vous pensez à cette personne. Avec qui c'est difficile. Et vous demandez de la bienveillance pour cette personne. Une attitude de foi, vous remettez cette personne au Seigneur. Elle est créée, elle aussi, à l'image et à la ressemblance de Dieu. La bénissez intérieurement. Vous demandez au Seigneur de la bénir. Vous accueillez cette personne telle qu'elle est, sans jugement. Vous accueillez sa réalité. Demandez de voir sa beauté. Aujourd'hui, c'est difficile avec elle, mais Seigneur, montre-moi sa beauté. Yeux. Et voilà, vous vous détendez. Voilà, c'est un exercice qui peut être fait de méditation, de bienveillance. Hein, donc c'est un qui ouvre aussi à l'accueil de l'autre. Encore une fois, pour ne pas rester centré sur soi-même. Maintenant, vous avez peut-être expérimenté. Dans ces petits exercices, des difficultés. Les difficultés, c'est que dès que vous vous mettez, fermez les yeux, mettez les mains sur les cuisses, le dos sur la chaise, et écoutez votre souffle, il y a quatre difficultés qui peuvent arriver. Premièrement, la difficulté liée aux pensées. Hein, aux pensées, c'est-à-dire que ce monde intérieur, qui est traversé de pensées, nous pensions trouver le silence, nous nous concentrons et nous rencontrons le bavardage perpétuel, un tourbillon de pensées et d'images. Parce qu'on trouve, on dit, voilà, on va s'isoler, le monde extérieur est très agité, etc. Et qu'en fait, quand vous commencez à descendre à l'intérieur de vous-même, vous découvrez aussi un monde agité. Donc, il y a quatre obstacles à la méditation, qui sont aussi les quatre obstacles à la prière. C'est les pensées. Ensuite, les jugements. Les jugements, c'est je juge les situations ou les personnes comme déplaisant, comme agréable. Ah, celui-là, non. Du coup, il y a des choses qui me viennent à la tête. Ensuite, des émotions qui peuvent m'envahir, des émotions de, d'anxiété, des émotions de sérénité, de joie, de tristesse. Et parfois aussi, il y a ce qu'on appelle des impulsions à agir. Vous vous rappelez de quelque chose. Ah tiens, il faut que je téléphone à maman pour lui dire ceci, par exemple, alors que vous êtes en plein exercice de méditation. Ou alors, il faut que je réserve le billet de train pour Noël. Ou, voilà. C'est important de dire que quand vous rentrez dans la méditation et dans la prière, de ce point de vue-là, vous rentrez aussi dans un combat intérieur. Vous rentrez dans un combat spirituel. Ce qui est intéressant avec la méditation de pleine conscience, c'est que l'attitude est d'accueillir les choses, ne pas forcément vouloir se crisper c'est pas un exercice de concentration où vous vous concentrez sur votre souffle. Et donc, ces quatre obstacles que vous pouvez avoir, c'est que tous ceux qui commencent une vie intérieure découvrent, bien, vous les accueillez et font partie de vous. Vous voyez, je pense que c'est aussi quelque chose qui vous permettra d'aller plus loin et de pas vous décourager. Ce qui est important, c'est aussi de ne pas juger sa propre méditation. Hein, de ne pas juger sa propre méditation, mais d'être attentif ce qui vient. Et aussi, ce qui est important, c'est d'être régulier dans la méditation. Hein, dans la méditation et dans la prière, nous prenons cette technique, mais qui la mettons dans une dimension chrétienne, eh bien, c'est important d'avoir une certaine régularité. Hein, c'est à la fois une présence à soi et c'est à la fois une présence à Dieu. Vous voyez, donc, c'est un petit peu là-dessus que je voulais vous sensibiliser ce soir, parce que c'est rare qu'on aborde des questions comme ça. Je vous renvoie au livre du Père Pascaline, qui est vraiment très détaillé pour le coup, et beaucoup plus que ce que je peux dire en une soirée, évidemment. Et peut-être que vous avez des questions ou des par rapport à ce que l'on vient d'évoquer ou que vous avez ressenti dans ces deux exercices que l'on a pu faire, soit de méditation de bienveillance, soit de méditation uniquement centrée sur le souffle, etc. Ou sur d'autres aspects que j'ai pu dire, ou vous voulez rajouter, certains connaissent, j'ai vu, il y avait des lois qui se sont levées, certains connaissent la méditation de pleine conscience, et peut-être peuvent rajouter tel ou tel aspect. Oui.
À votre avis, pourquoi est-ce que c'est pas plus développé dans l'Église ?
Pourquoi c'est pas plus développé dans l'Église ? Parce que je trouve que, vraiment par mes connaissances, alors que vous voyez, ce qu'on vient de faire, c'est quand même très simple. Il n'y a rien qui s'oppose à notre foi. On prend une technique qui vient d'une autre tradition religieuse qu'est le bouddhisme, qui a été laïcisé, comme je vous l'expliquais, mais nous, on la christianise. Et ce que je trouve, et ta question est tout à fait pertinente, parce que je trouve qu'il n'y a pas de... Il manque des lieux. Encore une fois, on passe de l'extériorité à la liturgie. On passe d'une personne qui se convertit, par exemple, ou une personne qui reprend contact avec sa foi chrétienne. Imaginons, on est éduqué dans l'enfance, voilà... Il n'y a pas ce cap de l'intériorité, de la réceptivité, de descendre à l'intérieur de soi-même. Il n'y a pas de lieu. Vous voyez ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de lieu. Et voilà, oui.
Moi, pour merci d'abord. Je voudrais rajouter peut-être l'essence, en fait, parce que c'est le goûter, le toucher, enfin, c'est vivre en pleine conscience, c'est vraiment savourer aussi. C'est aussi sentir l'air sur son visage, c'est utiliser tous ses sens, l'émerveillement. Tout ça fait partie de la pleine conscience. Et c'est vraiment utiliser son corps avec tout ce qui nous entoure.
Tout ce qui nous entoure, oui, tout à fait. Vous avez d'autres questions ? J'ai vu, il y avait l'un ou l'autre. Peut-être tu peux te rapprocher, rapproche-toi. Ah, on n'entend pas.
Ah, tu dois répéter ce que j'ai dit?
Voilà, ce que, bah, viens au micro, viens au micro, viens, parce que sinon on n'entend pas. Vas-y.
Bonjour tout le monde. En gros, ce qu'on pourrait rajouter, c'est vraiment les cinq sens sont essentiels dans la pleine conscience aussi, parce que c'est le goûter, le toucher, le ressentir, enfin, laisser rentrer la vie de Dieu, vraiment le vent sur son visage, l'esprit, enfin, l'eau. Voilà, utiliser ces cinq sens pour vivre dans le présent pleinement tout ce que Dieu a à nous donner, à nous offrir à travers la création, à travers ce qu'on va goûter, à travers ce qu'on va sentir. Et je trouvais que c'était intéressant de le rajouter.
On n'a pas, il faut prier pour qu'il y ait un micro-baladeur, parce qu'on n'a pas de micro-baladeur dans l'église. Donc, d'autres questions, d'autres. Oui? Viens au micro, parce que comme ça, ce sera plus facile. Pardon, excuse-moi, mais on n'arrive pas à s'entendre, plus avec les masques. Oui.
Moi, je ne m'y connais pas très bien, et du coup, j'ai l'impression que vous avez énormément montré les similitudes et les points de rapprochement
oui.
qui font que la méditation peut être bonne pour.
Oui.
Etc., et qu'il n'y a pas tant d'obstacles. Et est-ce que, justement, à l'inverse, la méditation, en pleine conscience, peut éloigner de Dieu?
Ah, oui.
Il y aurait des écueils.
D'accord. Est-ce que merci pour ta question. Est-ce que la méditation peut éloigner de Dieu? C'est vrai que des personnes qui ont vécu dans une extériorité et qui découvrent la méditation et qui découvrent cette présence à soi peuvent s'arrêter là. Parce que notre vie intérieure est tellement riche. Il y a une forme d'éblouissement de la découverte de la vie intérieure qu'ils ignoraient pendant 50 ans de leur vie, par exemple, parce qu'ils ont vécu dans l'agitation, dans l'hyperactivité, que sais-je. Ils ont fait une expérience à l'occasion d'une retraite de méditation d'une formation ou de groupe de méditation. Ils ont fait une expérience et donc il y a un éblouissement et ils arrêtent là. Et comme dans les groupes de méditation, il n'y a aucune dimension religieuse, ils ne savent pas, et même ils pensent que c'est. Parce que ça, ils ne l'ont jamais entendu à l'église. Donc ils pensent que dans l'église, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc ils ne vont pas aller vers. Et c'est là où. C'est pas un obstacle lié à la technique. Je ne trouve pas. C'est juste un obstacle lié au chemin personnel. La technique elle-même, elle est neutre. Tant qu'on ne donne pas de croyance, encore une fois, hein, si on vous demande de vous perdre dans le grand tout, si on vous demande, et le père Pascaline qui justement met un certain nombre d'obstacles, vous lirez dans le livre, c'est très bien fait, hein, certains qui disent la dissolution du jeu, par exemple, hein, il faudrait se dissoudre. Parce que le bouddhisme, c'est ça, c'est le bouddhisme. D'une certaine manière, dans le bouddhisme, tout est illusion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça remonte à quelques années, mais il y avait un livre d'entretien entre le père Abbé de Solesmes et le grand Dalai Lama. Au bout de 2h30 d'entretien, l'Abbé de Solesmes lui pose la question, mais est-ce que nous existons vraiment, tous les deux là, qui parlons? Et le grand Dalai Lama répond, je n'en sais absolument rien. Tout est peut-être illusion. Tout ça, c'est l'illusion. Ça, c'est le bouddhisme. Oui, donc, c'est de ce point de vue-là, si c'est transmis avec une dimension de croyance, ça peut éloigner de Dieu. Et c'est là où il faut être vigilant. Si c'est transmis comme juste une connaissance, une présence à soi, ça peut, c'est pas, peut-être pas éloigner de Dieu, mais ça peut. Comme les personnes qui vont le transmettre, comme c'est rare quand même dans l'Église, des personnes qui transmettent avec la dimension spirituelle qui est la nôtre. Les personnes vont penser que leur foi chrétienne n'a rien à voir avec ça. Et donc ils vont s'arrêter là. Donc dans ce sens-là, ça peut être un obstacle. Mais de la méthode elle-même, en tout cas, je ne vois pas quelque chose qui pourrait s'opposer à une vie de foi, quoi, qui si je mets justement à chaque fois, le moment de méditation, je me mets sous le regard du Seigneur. Ce souffle que j'ai, c'est d'abord le souffle du Saint-Esprit, c'est ce souffle de vie. Je me connecte à ce qui est vivant en moi. Et qu'est-ce qui est vivant en moi, si ce n'est la présence de Dieu? Vous vous rappelez Saint Augustin qui disait hein, « Dieu plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes ». Et ce que je trouve qui manque parfois dans l'Église, c'est ça, c'est de lieux où on fait l'expérience d'une présence. Parce que si on n'est que dans le rituel, si on est dans le rituel uniquement sans l'expérience d'une présence, il y a un risque de dessèchement. Je ritualise les choses, singulièrement la messe dominicale, mais ça ne s'accompagne pas d'une découverte d'une présence de Jésus. Vous ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit, nous dit saint Paul. Donc notre foi chrétienne, c'est une foi vraiment qui est au contraire centrée sur la présence de Dieu en nous. Ça, c'est le cœur même de la foi chrétienne. Le chrétien, c'est celui qui porte en lui-même plus que lui-même. Et donc de découvrir que cette présence de Dieu en moi, je peux y avoir accès juste avec une technique assez simple, qu'on peut pratiquer chez soi, qu'on peut pratiquer en groupe, qu'on peut pratiquer seul, qu'on peut pratiquer aussi avec, il y a des CD, il y a des applications qui aident à se mettre dans une, qui vous guident dans la méditation, hein, comme je pense à Petit Bambou par exemple, que je n'ai jamais écouté, mais qui vous guide dans la méditation. Donc vous êtes guidé dans votre méditation, mais sans aucune dimension transcendante. Alors voilà, je trouve que, en tout cas, telle qu'elle, je ne trouve pas qu'elle offre, peut-être d'autres auront d'autres avis, mais qu'elle offre des difficultés particulières, parce qu'elle fait appel à ce qui est c'est simplement naturel. C'est, voilà, ce qu'on a vécu, c'est, alors quand on rajoute, quand on inclut la dimension spirituelle, là pour le coup, on fait appel à la grâce. D'autres questions sur ce point-là? Oui? Alors, rapproche-toi parce que voilà, c'est mieux de venir vers le micro parce que sinon c'est trop compliqué après. Pardon, merci. Merci beaucoup.
J'avais déjà entendu parler de la prière silencieuse. Et là, je me demande à quel point aujourd'hui, dans la foi chrétienne, on a déjà une source dans laquelle on peut puiser et que peut-être. Peut-être un équivalent à cette méditation de pleine conscience,
oui.
Et d'épuiser plutôt aussi sur cette tradition chrétienne. Mmh. Est-ce que ça serait l'équivalent?
Alors, comme je dis, il y a une différence entre la prière, la méditation de pleine conscience est strictement neutre. Elle ne fait pas appel à... elle est naturelle, alors que la méditation chrétienne, elle fait appel à la grâce. Alors, oui, bien sûr que vous dites ce que tu dis là, c'est de dire, est-ce qu'au fond, par exemple, la grande tradition carmélitaine de l'oraison mentale, qui est la prière silencieuse, l'oraison sur... Évidemment, on peut puiser tout à fait dans évidemment, c'est un axe tout à fait sûr pour nous. De même, la grande tradition ignatienne, hein, de d'oraison mentale, de prière mentale, etc., ce que je trouve, c'est même pas un sujet, c'est une évidence. Ce que je trouve, quels sont les lieux d'accès à ces, c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, par exemple, le patrimoine de carmélitain ou le patrimoine ignatien, il est considérable au plan spirituel. Bon, Ignace de Loyola, qui, pour ce 17e siècle, qui parle justement de la dimension des émotions, consolation, désolation, c'est très fort et c'est très moderne, en fait. Je trouve que ça offre une technique qui est au service d'eux. Ça ne remplace pas, ça permet juste d'accéder à cette prière silencieuse, à nous mettre dans une disposition. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça implique notre corps. Alors que dans les traditions de prière silencieuse que je viens d'évoquer, il y en a peut-être d'autres aussi, le corps n'est pas sollicité. Le corps n'est pas sollicité, avec la présence au souffle, avec la disposition du corps, avec les mains sur les cuisses, etc., avec ce que disait Zohar, d'accueillir les cinq sens, le toucher, peut-être le vent sur mon visage, etc. Toute chose qui n'est pas présente dans les traditions de prière silencieuse que je viens d'évoquer. Et donc, je trouve que dans le climat actuel, ça donne, je trouve, c'est une méthode qui permet d'accéder à ces prières silencieuses que tu viens d'évoquer. Mais c'est de l'ordre de la méthode. Si vous-même, vous êtes déjà formé, par exemple, à la prière, à l'oraison, c'est très rare de rencontrer, pourtant je pense la majorité d'entre vous, vous êtes pratiquants, etc., mais c'est très rare de rencontrer des jeunes formés à l'oraison, à ce qu'on appelle l'oraison mentale, hein, à la prière silencieuse, c'est très rare. Il y a un défi, alors qu'on a un trésor dans l'Église, mais il y a un déficit d'accès. Il y a un déficit d'accès. Et moi, j'appelle de mes voeux des lieux qui permettraient juste de proposer des temps de connexion à soi-même, d'être présent à soi-même et d'être présent à la présence de Dieu en soi, qui est vraiment le cœur du mystère chrétien.